Donc voilà, bienvenue pour cette rencontre donc autour du culte. Alors, on commence peut-être par plutôt la Bible. Et donc je vous propose une petite feuille avec des textes bibliques que je vous ai sélectionnés pour chercher dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau. Avant que James, cherche à travers l'histoire, à travers divers théologiens, un peu ce qu'on a pu en faire après. Alors le culte, finalement, culte à Dieu, le culte au Dieu, ça, c'est typiquement, je dirais, ce que nous disent les anthropologues, finalement, la différence dans l'évolution entre le singe et l'homme. Ils commencent à dire, voilà, on n'a plus seulement un singe, ou enfin une sorte de singe, cousin du singe, un animal, mais on est dans l'humain, quand il commence à y avoir quelque chose de l'ordre de la préoccupation spirituelle, du rite, par exemple, on commence à enterrer les morts avec un rite, où on commence à faire des peintures sur des grottes, et ça exprime une recherche de transcendance, ou bien peut-être s'ouvrir à une dimension de transcendance, peut-être une vie future, peut-être le monde des esprits, ou bien pour se rendre les dieux favorables, peut-être. Par exemple, on peut faire une danse de la pluie autour d'un totem, etc. Donc ça fait vraiment partie, à peu près, je pense, de tous les peuples de l'humanité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, dans la Bible aussi. Et il y a une évolution, il y a un peu différents lieux, finalement, du culte que l'on peut discerner à travers les textes bibliques. Alors, je vais commencer par la Genèse, parce que c'est dans le début de notre livre, mais en fait, on sait bien que ce n'est pas chronologique, et que la Genèse n'a pas été écrite avant le livre des Chroniques, ou avant je ne sais pas quoi. Mais, dans Genèse 4, par exemple, donc c'est ce que je vous ai mis en premier, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn prend ça moyennement bien, mais on voit bien que derrière, si vous voulez, l'offrande, le sacrifice finalement, il y a peut-être un peu l'idée que grâce à ça, l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, sera favorable. En même temps, quand on prend une part des fruits de la terre, une part de son troupeau, c'est en même temps on prend une part de ce qu'on a reçu. Donc c'est aussi une louange, si vous voulez. Donc on a toujours un peu cette ambiguïté, dans un certain sens, on a souvent un peu cette ambiguïté. Globalement, quand même, dans l'Ancien Testament, le sacrifice est plutôt un sacrifice de louange, c'est-à-dire de remerciement de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a pu apporter. Mais il y a aussi un peu de la propitiation, c'est-à-dire, c'est la logique humaine, j'allais dire, c'est normal, c'est l'échange. Quand je vais chez le boulanger, j'avance mes 1,10€ pour avoir ma baguette. Je ne peux pas dire, écoutez, regardez ma bonne tête. Non, ou alors il ne donne pas la baguette et en disant, tiens, puisque vous êtes sympa, je vais vous donner 1,10€. Non, c'est un peu du donnant-donnant, donc c'est une logique relativement normale. Puis dans la vie aussi, je veux dire, si on mange bien, on est plus en forme, donc il y a une logique quand même, de cette affaire. Mais déjà dès Genèse 4, on voit que c'est quand même plutôt, il y a une dimension de rendre grâce, mais on la reverra après. Alors si j'ai mis le verset 26 après, donc vous savez que Caïn tue Abel, et puis finalement Abel, il est mort, mais Seth, troisième enfant d'Adam et Ève, c'est un peu une descendance spirituelle d'Abel, il eut un fils, il l'appela du nom d'Enoch, Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors là, c'est une invocation, c'est plus dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de sacrifice, et c'est quelque chose de l'ordre de la relation. C'est une autre dimension importante, finalement, qu'on va retrouver. C'est de la relation, en fait. C'est un appel à la prière, peut-être. C'est aussi une façon de reconnaître Dieu. En tout cas, Enoch, ça veut dire humain. C'est un nom relativement commun, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fois un nom commun, c'est pas qu'un nom propre. Et voyez, on retrouve un peu ce que je vous disais pour l'anthropologie, c'est que finalement, c'est quand on commence à appeler, à invoquer le nom de l'Éternel, à appeler, à crier le nom de Dieu, que l'humanité devient un peu humaine. Alors, Genèse 8, vous savez, la suite de l'histoire, l'humanité devient violente, il y a quand même Noé, ça évoque la partie juste de l'homme, c'est l'archétype de l'homme juste qui marche avec Dieu, tout ça. Mais Dieu sauve, donc envoie une gigantesque chasse d'eau qui enlève l'humanité violente, mais quand même Dieu se souvient de Noé, et il arrête de faire pleuvoir, il les refait arriver sur la terre sèche. Et à ce moment-là, sans que ça lui soit demandé, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il offre un sacrifice. Et puis l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Vous voyez, on retrouve les deux dimensions. C'est de la louange. Dieu, la grâce de Dieu est première dans un sens. Il a fait grâce à Noé, il l'a sauvé, il l'a porté, il les a sauvés. Quoi. Et donc spontanément, il offre un sacrifice. C'est de la pure louange, il n'avait pas besoin de le faire, il était déjà sauvé, c'est tout bien. Mais quand même, Dieu est content, vous voyez, il y a une odeur agréable qui va rendre Dieu favorable, qui va permettre de pérenniser finalement ses bienfaits. C'est un peu plus pour acheter la fidélité finalement, c'est la pérennité, c'est de la louange et de la volonté de pérenniser le bienfait de Dieu qu'on met en avant finalement. C'est un petit peu peut-être la logique, d'enraciner ça, voilà. Alors ensuite, Genèse 12, c'est avec Abraham. Alors vous voyez, là, on est dans des grands textes très fondateurs. C'est pour ça que, si vous voulez, ça fait un petit peu c'est quand même des marqueurs importants, parce que c'est des textes qui étaient connus par cœur, qui étaient à la base du catéchisme aussi, du temps de Jésus, ce genre de textes, si vous voulez. Hein. Donc Abraham, c'est pareil, c'est la grâce pure, première. Il reçoit un appel, une bénédiction, la promesse qui sera bénédiction pour un grand nombre de peuples. Et puis effectivement, encore une fois, c'est un peu plus loin, l'Éternel apparaît à Abraham, donc aux chênes de Mamré, et il dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, point. Vous voyez, donc là, il n'y a pas l'idée de se s'attirer des bonnes grâces de Dieu, c'est déjà tout donné en fait. Enfin, ça ne s'est pas encore vraiment concrétisé, c'est vrai. C'était de l'ordre de la promesse et ça mettra du temps, si vous voulez, à avoir cette descendance promise au début de Genèse 12, mais là, l'intention, on a l'impression, et ça se retrouve, si vous voulez, dans l'histoire, c'est plutôt l'idée de faire un mémorial, en fait. L'Éternel est apparu, eh bien, on le marque dans la pierre, on le marque dans un autel qui sert peut-être même pas, vous voyez, pour faire un sacrifice, en fait. C'est un mémorial, c'est une pierre blanche qui vient marquer ça, et qui fera mémoire, qui fait date. C'est une façon peut-être d'essayer d'imprimer un peu dans notre vie, dans notre être, pour les générations suivantes aussi peut-être. En tout cas là, c'est l'autel en lui-même fait sens, et c'est finalement un culte par cette trace laissée. Alors un peu plus loin, il n'y a même pas d'apparition de Dieu, mais l'autel, c'est quelques versets plus loin, donc c'est un verset plus loin. Il bâtit encore un autel sur une montagne, un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc voyez là, il y a l'idée, bon, Dieu s'est rendu présent, il a béni, je le marque. Et un peu après, il a envie de se dire, ben peut-être que si je mets la marque, ça va provoquer aussi une apparition, une théophanie, comme on dit en langage, une apparition de Dieu, si vous voulez, et que Dieu se rende présent dans ma vie et apporte peut-être quelque chose de plus. Donc ça, c'est de l'invocation, voyez, c'est pour rendre Dieu présent, ou pour faire mémoire de la présence de Dieu, et... Bon, dans notre culte aujourd'hui, c'est des choses, à mon avis, qu'on peut retrouver dans un certain sens, dans notre liturgie, dans notre peut-être dans notre intention de prière aussi, ou dans nos, par exemple, je sais pas, quand on offre une alliance pour un mariage, si vous voulez, c'est un peu un mémorial d'un temps, j'allais dire de théophanie, espérons, si vous voulez. En tout cas, c'est pour faire mémoire de ce temps avec l'Éternel, ou une croix, une autre qu'on s'offre. Il y a quelques personnes, par exemple, qui ont reçu un baptême d'adulte ou une profession de foi, et on les voit ensuite des fois avec une croix, une autre. C'est l'affaire de dire, voilà, on va marquer par quelque chose cette démarche, ce temps, voilà. Alors ensuite, c'est Salomon, si vous voulez. Salomon, peut-être je peux vous dire quelque chose entre les deux, si vous voulez. C'est que ces mémorials, il va y en avoir un peu partout. Il y en a plusieurs, ça se retrouve souvent. Il va y avoir, par exemple, Jacob, qui, dans une expérience de Dieu, va aussi dresser une pierre. Donc c'était Bethel. Il va y avoir... par exemple, Samuel, il dit que chaque année, donc c'est un juge, un gouverneur, chaque année il faisait le tour de Bethel, Gilgal et Mitzpah. Il fait le tour comme ça de ces mémorials, des endroits où Dieu avait apporté une dimension, enfin quelque chose de salut à Israël. Et donc ils avaient dressé, comme Abraham, ils avaient dressé ces mémorials, ou ces mémoriaux, je ne sais pas comment on dit en français, ces mémorials, je pense quand même, non ? Enfin, ces hôtels qui font mémoire. Et ils ont fait le tour, finalement. Quoi ?
Un ensemble de mémorials.
Un ensemble de mémorials, voilà, une collection. Et ils ont fait un tour, voilà. Pour... mais un peu comme une... pour se le réapproprier, ou pour essayer de s'ouvrir à ce salut de Dieu qui a été donné à Bethel, donc avec la présence de Dieu, la porte des cieux, la maison de Dieu qui était là. Avec Gilgal, c'est quand les Hébreux avaient traversé le Jourdain, donc c'est vraiment le salut de Dieu par miracle, quoi, qui ouvre des mers et des fleuves pour libérer son peuple. Et puis Mitzpah, ça évoque la... Bonsoir, monsieur. Ça évoque la tour de veille, de garde, pour se protéger des ennemis et garder comme ça. Donc vous voyez, c'est des mémorials. Mais ça sert déjà un peu de catéchèse, dans un sens. On garde mémoire de ces temps de salut pour un peu comme l'invocation dont je parlais, pour permettre à Dieu d'avoir les mêmes gestes, finalement, dans notre existence. Et c'est un peu ce rôle du temple de Salomon, 1 roi 8. Il y a des gens qui se disaient, voilà, vraiment Dieu est présent dans le temple, dans le Saint des Saints, au moins le coin de son manteau, peut-être, je ne sais pas. Mais dans 1 roi 8, on parle de l'inauguration du temple par Salomon, ce temple qu'il vient de construire, qui est tout neuf, tout beau, tout neuf. Et la prière qu'il fait, il prie à Dieu, finalement. Hein. Et voilà ce qu'il dit. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, donc au temple de Jérusalem, exauce-les du haut des cieux, finalement, donc il sait bien, Salomon, que Dieu n'est pas dans le temple, qu'il est dans une autre dimension, dans une transcendance. Pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Donc voyez un peu trois rôles peut-être du temple. C'est un lieu de prière, c'est un lieu d'invocation de Dieu. C'est peut-être plus pour fixer la prière du peuple, qui puisse vraiment se rappeler l'Éternel Dieu qui est là, au milieu de, comme le temple est au milieu de Jérusalem, qui est au milieu d'Israël, et bien ça évoque, ça aide à fixer la prière peut-être. Et l'intention, et bien, c'est que cette prière est en fait vraiment donc vers l'Éternel, et pas à gauche, à droite, vers des idoles quelconques, je ne sais pas quel veau d'or, je ne sais pas quel totem, je ne sais pas quelle divinité ou arbre sacré. Eh bien, et Dieu puisse apporter ses bienfaits. Et le bienfait, c'est le pardon des péchés, donc quelque chose qui est lors d'une réconciliation avec Dieu, d'effacer la dette, finalement. L'enseignement aussi, on le voit, hein, d'entendre la loi peut-être, entendre le bien et recevoir, voilà. Et puis aussi, restons pragmatiques, et bien aussi la bénédiction matérielle, voilà, les guérisons, les bonnes récoltes, la paix peut-être aussi avec l'entourage. Donc là, Il y a, vous voyez, différentes dimensions de ce culte, finalement, qu'on voit apparaître. Intention de dimension. Le culte qui aide à fixer la prière dans la bonne direction, vers l'Éternel, notre Dieu. Et puis l'attente de l'efficacité, finalement, de cette prière, quand elle est ainsi bien dirigée, je pense. C'est surtout ça qui est en cause, plus que le lieu comme lieu magique. Je ne crois pas que ce soit tellement l'idée. Bon, ça a pu l'être de temps en temps. C'est vrai. Alors, on peut se dire, si vous voulez, que le sacrifice qui aura lieu au temple, est-ce que c'est du donnant-donnant ? À mon avis, dans une histoire d'Abraham aussi, donc la ligature d'Isaac, c'est quelque chose dont on pourrait penser que le sacrifice ou l'intention de sacrifice, finalement, permet d'acheter à Dieu la bénédiction en général, les bénédictions qu'on vient de voir là. Je ne pense pas. Au contraire, à mon avis, ce texte de la ligature d'Isaac, du sacrifice raté, finalement, je veux dire évité, heureusement, d'Isaac, ça vient dire au contraire que ça ne sert à rien, si vous voulez. Ça ne sert pas pour ça. Puisque ce que va gagner Abraham à avoir eu l'intention de sacrifier son fils, c'est de recevoir une bénédiction qu'il avait déjà reçue en Genèse 12, finalement. Donc, ce n'était pas la peine. Et en plus, Dieu empêche le sacrifice de l'enfant, et c'est Dieu qui offre lui-même le bélier du sacrifice. Donc, si vous voulez, ça, à mon avis, ça élimine le sacrifice humain, mais même ça met le sacrifice d'un agneau, finalement, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de faire la fête ensemble, plutôt que de sceller une alliance, si vous voulez, mais une alliance qui était déjà là, finalement, plutôt que de l'acheter, ou d'acheter les bénédictions de Dieu, en fait. Alors, le temple, si vous voulez, ça a servi aussi à éliminer tout un tas d'autres lieux de prière et d'enseignement. Et donc, à mon avis, c'est aussi d'une manière aussi un peu politique de se recentrer et de ne pas laisser faire n'importe quoi. C'était peut-être aussi un peu ça dans cette histoire. Alors, si vous voulez, là, puisqu'on parle du temple de Jérusalem, j'ai mis, si vous voulez, Jean 4 un peu en dessous, parce que il va y avoir cette polémique, si vous voulez, entre Jérusalem comme lieu de culte ou le mont Garizim pour les Samaritains. Et puis Jésus, il dit finalement que c'est plutôt une adoration intérieure dans l'esprit. Et donc il y a une polémique par rapport à ça. La polémique, Jésus ne l'invente pas tout à fait, parce qu'on va le voir avec Amos, avec Ésaïe, avec Jérémie, avec Ézéchiel. Il y avait finalement un petit peu ces deux... plusieurs courants, finalement, dans le judaïsme, qu'on retrouve dans la Bible, pour savoir comment marche le salut, finalement. Alors, il y avait des... la place a été prise par une colonne. C'est pas facile. Donc, il y avait des courants, si vous voulez, quand même, plutôt très, très sacerdotaux, très ecclésiaux, qui disaient que, voilà... Le salut passe quand même par la liturgie, par les sacrifices, par l'observation des lunes, des fêtes, des machins, et que ça, c'était quand même super important, et que c'était la seule façon. Et puis, il y a eu les courants après prophétiques qui ont dit, écoutez, il ne faut pas rigoler, tout ça, c'est de l'ordre, peut-être du symbole, de la pédagogie, mais l'essentiel, c'est dans le cœur. Alors ça, on verra... ou alors on peut le voir maintenant avec Amos, c'est le début de la deuxième colonne, hein. L'Éternel dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et que la justice soit comme un torrent qui jamais ne tarit. Alors il y en a plein de parallèles chez d'autres grands prophètes, mais dans un sens, c'est pas inintéressant, parce que si vous voulez, bien sûr, c'est une relecture spirituelle de ça. On aura aussi de dire la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur, pas du pénis. Les holocaustes et les offrandes, c'est offrir finalement du temps à ceux qui ont besoin d'aide, de la prière à Dieu aussi, peut-être. Les actions de grâce, si vous voulez, c'est plutôt de faire la justice, de changer soi-même. Donc c'est une relecture, mais en même temps, dans cette liste, on voit un peu, si vous voulez, quel était le catalogue du culte des Hébreux à cette époque-là. Il y avait des assemblées, des rassemblements pour des holocaustes, des offrandes, mais aussi avec des cantiques, avec de la musique, avec des prières de louanges. C'est tout ça, on va les retrouver dans les psaumes, si vous voulez. Et ils en proposent une relecture, je dirais, beaucoup moins ritualiste pour insister sur... voilà. Alors, c'est pas incompatible, si vous voulez. La question, c'est de savoir que si effectivement, par exemple, Bethel devient la mémoire, le signe d'un moment où Dieu s'est rendu présent et donc le signe que Dieu est accessible, que Dieu s'approche de l'homme, l'accompagne dans son cheminement, on risque de prendre le signe pour la réalité. Et donc c'est ça un peu la polémique, peut-être, des prophètes. C'est peut-être pas de supprimer tous les cultes, les autels, les cantiques, la musique, les prières, mais de dire, bah, écoutez, rigolez pas, les gars. L'important, c'est la réalité signifiée, c'est l'effet visé. C'est pas le culte pour le culte. Ça, Jésus le dira aussi, voilà, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est affaire de dire, bon, tous ces machins religieux, c'est fait pour le développement de l'homme. C'est pas pour... opprimer l'homme ou pour que, je dirais, l'homme passe son temps, perde. L'acte religieux n'a pas d'intérêt en soi, c'est qu'un moyen. Alors il y a le très curieux Exode 3, c'est juste avant le buisson ardent. Alors là, c'est quand même un méga grand texte, bien sûr, hyper fondateur, hein. Dieu dit, je serai avec toi, c'est une promesse faite au... Si, par exemple, à Jacob, c'est le Dieu avec nous qui nous accompagne. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Parce que bien sûr, Moïse, il dit, mais enfin bon, est-ce que c'est bien sûr, machin. Et voilà ce que le signe que c'est bien Dieu qui l'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moi, j'aurais dit comme signe, écoute, tu vas voir la mer qui est écartée comme deux murailles, tu passeras à pied sec au milieu, tu verras... les Égyptiens qui vont être explosés avec des épouvantables plaies. Là, tu verras que je suis un Dieu qui t'accompagne et qui va avec puissance, énergie, force et détermination pour montrer qu'il ne ménage pas sans effort. Ben non. Le signe que Dieu est avec Moïse, c'est que le peuple... pourra servir Dieu. Servir Dieu, c'est un terme technique, finalement, un des termes techniques pour dire le culte sur cette montagne. Et donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que le vrai signe, le vrai culte à Dieu, finalement, c'est le vrai signe que Dieu est présent, eh bien, c'est que l'homme est converti, c'est-à-dire que l'homme a changé intérieurement. Et donc, sinon, c'est à rapprocher aussi, à mon avis, d'Amos. C'est pas le culte pour le culte. Ou la preuve que Dieu est actif, c'est qu'il a changé, le cœur de l'homme a pu changer. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, c'est un retournement. Et le vrai service qu'on peut rendre à Dieu, c'est pas de lui offrir des bœufs, machin. Et alors les prophètes rigolent. Si vous croyez vraiment, dit Dieu, que j'ai envie de l'odeur des bœufs brûlés en holocauste, je pourrais aussi bien me servir. Tout est à moi. Vous rigolez. Donc le vrai service, le service de Dieu, c'est la conversion finalement. C'est le changement, c'est d'être libéré intérieurement et d'être dans une juste relation à Dieu, c'est-à-dire que de répondre à la grâce de Dieu, parce que typiquement Exode 3, c'est la libération par grâce. Ils n'ont même pas invoqué Dieu, ils gémissaient seulement. Ils sont sauvés et le vrai signe de l'action de Dieu, c'est... la conversion de l'homme. Alors c'est ce qu'on va retrouver finalement un peu dans le décalogue, c'est ce qui est mis au début du décalogue. C'est curieux aussi parce que finalement il y a marqué la première des 10 paroles du décalogue, c'est que l'Éternel a libéré son peuple hors d'Égypte, donc la grâce est première. Il n'y a pas marqué « vous servirez Dieu, vous l'adorez », non, il y a marqué simplement en négatif « vous n'adorerez personne d'autre ». Mais, bon, on peut dire dans « honore ton père et ta mère », l'idée d'adorer, honorer Dieu aussi, si vous voulez, pas seulement ses géniteurs ou les gens qui nous ont élevés, mais aussi ce Dieu qui est notre père et mère. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important et qu'on retrouve beaucoup, je pense, dans l'Évangile. Alors j'ai mis comme échantillon Luc 15 au sommet de la deuxième colonne. Jésus dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, qui se repent, qui change de mentalité littéralement, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer ». Et donc, il y a le joie dans le ciel, donc c'est là qu'on peut dire qu'il y a un service de Dieu, parce qu'on réjouit Dieu. Dieu a besoin de ça, ça l'enrichit, ça le rend joyeux. C'est une façon de parler, bien entendu, mais oui, donc il y a de la joie dans le ciel quand on change. Donc on retrouve, si vous voulez, Exode 3 dans un certain sens, le vrai culte à Dieu, c'est intérieur, c'est de changer, c'est cet accomplissement. Alors, c'est ça, pour nos sacrements à nous, ça peut donner à penser, si vous voulez. Parce que le sacrement à nous, c'est ces rites qu'on peut retrouver, par exemple, dans la circoncision, ou bien ça existait, si vous voulez, aussi. C'était une forme de culte, ou un culte particulier. La circoncision, il peut y avoir l'ordination des prêtres, ou bien l'onction d'huile pour un prêtre, un prophète ou un roi. Il pouvait y avoir la consécration donc, d'un temple, d'un autel, l'onction d'un autel, d'un temple. Il pouvait y avoir d'autres rites comme ça, si vous voulez, de sacrements, finalement, dans un certain sens. Nous, il y a le baptême, la communion, il peut y en avoir chez les catholiques, il y a le mariage, l'ordination, l'onction des malades, enfin, il y en a, voilà, on pourrait discuter, savoir si c'est sacrement ou pas, mais tous ces gestes religieux qui existent aussi chez nous, finalement, on peut le voir, par exemple, le baptême comme quelque chose d'extérieur, presque quelque chose qu'on reçoit, vous voyez, qu'on consomme. Alors que là, le sacrement dans Exode 3, le signe de la grâce de Dieu, c'est la transformation de notre être. C'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose que l'on est, finalement, ce sacrement, ce signe de la grâce de Dieu, qu'on est appelé à être. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, si vous voulez. Le culte, il est réponse à la grâce de Dieu, mais en même temps, il scelle l'alliance, parce que l'alliance, c'est quand il y a l'aller et le retour, finalement. Il y a l'alliance unilatérale de Dieu par sa grâce, mais s'il y a le retour, c'est quand même pas mal. Donc, c'est ce qu'on retrouve, à mon avis, dans Luc 15. Il n'y a pas plus grâce de Dieu que la parabole de la brebis perdue qu'elle a. La brebis ne fait rien pour être sauvée, ni pour se repentir, ni pour monter sur les épaules du berger. Mais ce qui donne de la joie, c'est donc la grâce de la brebis quand elle change de mentalité, en réponse à la grâce de Dieu. Enfin bref. Alors le culte, si vous voulez, il a pu être très individuel, par exemple comme avec les patriarches. Il a pu être très individuel, par exemple avec Caïn et Abel, avec Noé, mais assez rapidement ça devient quand même collectif, si vous voulez, collectif par exemple dans ce qu'on appelle des assemblées. Et donc on le voit avec Moïse, déjà dans le désert il y avait une assemblée souvent autour d'une tente qu'on appelait la tente de la rencontre. Et alors il y a deux mots finalement pour dire cette assemblée. Il y a la kehala, c'est du verbe kaal qui veut dire appeler. C'est comme en français le mot église, si vous voulez, enfin en grec on pourrait dire, parce que c'est du grec, ecclesia. Ecclesia ça veut dire ek, ça veut dire en dehors, et puis kaleo, ecclesia, ça veut dire appeler. Donc on est appelé hors d'eux. Donc dans le terme même Église, il n'y a pas, ou dans Kahala, il n'y a pas l'idée de rassemblement. Il y a l'idée d'un appel qui est l'appel de Dieu. Et si tout le monde répond à l'appel, et de fait on se retrouve un peu au même endroit, parce que l'appel il est transmis par Moïse ou par je ne sais pas quoi, par le chauffard, la corne de bélier, voilà. Mais l'idée n'est pas l'idée de rassemblement. L'idée c'est d'appel de Dieu, et le rassemblement n'est qu'un, je vais dire, un bénéfice collatéral. Ecclésia aussi. Église, ça ne veut pas dire ce rassemblement. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie tout seul dans sa chambre, à mon avis, il est en Église. Puisque, d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit. Il dit, quand tu pries, tu vas tout seul dans ta chambre et tu pries notre Père qui est aux cieux. Donc, vous voyez, il invite à avoir une relation, un culte vraiment très privé, intime, mais de prier au pluriel. Donc, il y a l'Église, je dirais, parce que quand on prie Dieu, on reconnaît tout d'un coup que Dieu est le Père d'un grand nombre de frères et sœurs, et du coup, on découvre qu'on a des frères et sœurs, peut-être. Mais enfin, l'idée, c'est d'abord l'idée d'appel. D'appel de Dieu et d'appel à Dieu, peut-être, les deux, voilà. Et puis, ça peut être aussi Ada. C'est le lieu du témoignage, de l'enseignement. Et finalement, c'est peut-être un peu les deux sens de ces assemblées, si vous voulez. C'est l'idée de répondre à l'appel de Dieu, c'est l'idée d'invoquer Dieu, et c'est ce qui fait un peu alliance, et puis c'est aussi l'idée d'enseignement qu'on retrouve. Alors, ça, on peut le voir aussi un peu dans Amos, voilà, il y a l'idée, je sais pas, il n'y a pas marqué l'enseignement, mais il y a marqué, voilà, donc mais le mot assemblée. Alors, dans les psaumes, c'était un petit peu les liturgies, si vous voulez, de ces rassemblements qui ont été compilés de différentes époques dans les psaumes. Donc, on voit qu'il y a des cantiques avec des instruments, ces mizmores. Il y a des prières de louange, c'est la Tehila. Il y a la prière de demande, c'est Tefila. Il y a les complaintes, la repentance. Puis, il y a aussi les méditations, l'enseignement, la prédication. Et puis il y a des fois un terme pour dire un peu la prière silencieuse. On ne sait pas trop si c'est une prière silencieuse ou si c'est un chant bouche fermée, si vous voulez, comme on faisait des fois, mais qu'un peu comme une, là encore, une sorte de prière d'humilité. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce qu'on avait je pense, comme culte autour du temple de Jérusalem. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, il y a l'exil à Babylone, la destruction du temple. Ça, c'est en gros, c'est donc en moins 500 avant Jésus-Christ, entre moins 500 et moins 600. Et puis, 140 ans après le retour avec Esdras, et bien, c'était un peu le bazar parce que le temple avait été reconstruit. Mais enfin, les gens qui étaient revenus d'exil, ce qui s'est passé pendant que le temple était détruit, enfin bref, il y avait tout un tas d'autres dieux, divinités, idoles, bâtons sacrés, déesses qui étaient honorées. Tout le monde avait épousé des femmes étrangères, quelle horreur. Donc en fait, ils disent, on va remettre les choses au point. Et donc ils redécouvrent un manuscrit de la Torah. Donc c'est deux rois 22-23 qui expliquent ça, et puis ils le redécouvrent ou ils écrivent la Torah à ce moment-là, si vous voulez, plus vraisemblablement, enfin donc dans cette période entre moins 500, moins 600, et puis moins 400 peut-être, moins 300, et en tout cas ils en font une compilation, puis on voit dans Néhémie 8, eh bien, cette réforme. Alors j'ai mis des petits pointillés parce qu'il faudrait lire tout le chapitre et puis quelques autres aussi parce que Esdras, Néhémie, ça parle de ça. Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Donc en fait c'est quand même, c'est pas mal, mais même les femmes, vous voyez, c'est quand même, c'est en progrès. Et puis, parce que les femmes n'avaient pas accès, si vous voulez, au temple, vraiment au temple. Et les enfants aussi, grands-enfants, quoi, capables d'entendre. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Esdras bénit l'Éternel. On a déjà un peu l'amorce d'un culte, si vous voulez, qui se dit là. Le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. qui est le mot de la foi, finalement. Hein, que je, sais, je tiens ferme, je tiens solide, je base mon espérance de vie, de fidélité sur l'Éternel. Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel. Donc c'est une, j'allais dire, ils reconnaissent que Dieu est Dieu, c'est de la louange, c'est de l'alliance. Hein. Les Lévites, alors il y en a d'autres, qui, il y avait toute une liste de gens, les Lévites lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Donc il y a une prédication, vous hein, voyez, une appropriation, une actualisation de la Bible, de la Torah. Hein. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. On peut y voir voilà, de la repentance, on peut y voir de l'appropriation personnelle, finalement, de ça. Hein. Ça peut être... voilà. Il leur dit alors, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux. » Alors ça, il peut y avoir chose un peu qu'on peut retrouver peut-être dans notre scène, si vous voulez, dans la communion, c'est-à-dire l'idée d'un repas fraternel. C'était un peu les sacrifices, c'était ça, si vous voulez. En général, un sacrifice au temple ou dans un lieu de culte, on brûlait, le sang était offert à Dieu, la graisse, tout ça, ça faisait une bonne odeur pour les narines de Dieu, mais le reste, c'était un méchoui que se partageait le peuple, sauf les holocaustes, où tout était envoyé en fumée. Donc là, il y a l'idée de repas, finalement, de communion, effectivement, du peuple avec Dieu et de Dieu avec le peuple. Et envoyer des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Donc il y a aussi la solidarité avec les pauvres qui est associée. Ça, on le retrouve aussi chez nous, si vous voulez, hein, entre l'entraide et puis l'Église. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est un des versets très connus de Néhémie. Et c'est, voilà, donc c'est peut-être aussi un envoi en mission, une exhortation et une bénédiction qui nous est donnée. Alors ça, si vous voulez, ça va être la base, en fait, d'un autre modèle de présence de Dieu que le temple, que le rite, que le sacrifice, que les lunes, les fêtes, la fête de la Pâque, la fête de Yom Kippour, les grandes fêtes, si vous voulez, qui venaient rythmer l'année du peuple juif qui était donc autour de tous ces rites de culte. Ça sera la synagogue. La synagogue, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être découvert en exil. Ils n'avaient plus le temple, il était démoli, le temple était loin, la terre, ils étaient en dehors de la terre, et ils ont découvert finalement que dans la prière à Dieu, dans la méditation de la Torah, finalement, peut-être non encore écrite ou en train de s'écrire, dans cette relation à Dieu par la parole, par le débat, par l'étude, par la prière, Dieu se rendait présent et que ça faisait vivre l'homme, finalement. Voilà. Et donc, là, ces lieux de discussion, de débat, de méditation, d'écriture, de théologie, de prière, va devenir un autre lieu de la présence de Dieu, en concurrence avec le temple, on pourrait dire en même temps que le temple, enfin, en complément du temple. Et puis ensuite, quand le temple sera de nouveau démoli en 70, ne restera plus que la synagogue. Et donc, ça va être la base du culte synagogal, cela, cette réforme. À mon avis, ça va être très fort. Il va y avoir des maisons de lecture, un peu comme on voit au psaume 74. Il n'y en a pas beaucoup de traces, si vous voulez, dans la Bible. Mais on sait que ça existe, bien sûr, par l'histoire, par les traces archéologiques, puis aussi par ce que l'on voit, par exemple, dans les évangiles. Donc là, ils démolissent tous les lieux de rencontre de Dieu dans le pays. Donc il y avait des lieux d'étude. On peut le voir aussi quelques traces dans Ésaïe, dans Jérémie. Mais le lieu de rencontre, c'est que c'est le même mot que la rencontre de la tente de la rencontre. La tente où il y avait l'arche d'alliance de Moïse dans le désert, selon l'histoire, qui se retrouve dans le Saint des Saints du premier temple. Cette histoire de synagogue, c'est ce qu'on va retrouver avec Jésus, effectivement. Jésus était un juif pratiquant, donc il allait, comme dit Jean-Luc 4, il allait, selon sa coutume, il allait à la synagogue le jour du sabbat. Quand il n'avait pas mieux à faire, parce qu'on le voit qu'il était libéral, si vous voulez, c'est-à-dire que bon, il dit, voilà, s'il y a une guérison à faire, si ce jour-là, ils sont en train, en voyage, eh bien, ils grignotent les épis de blé qui sont dans les champs, enfin bref, il n'était pas à cheval sur la lettre du truc. Mais enfin bon, il avait donc la synagogue et aussi le temple, en fait, comme lieu d'enseignement. un lieu de partage, un lieu de débat théologique. On le voit aussi aller dîner chez des gens le jour du sabbat, donc c'était un lieu aussi de débat théologique. Le jour du shabbat, c'était un lieu aussi de culte, pas à la synagogue, mais en famille, entre amis. Et puis on voit Jésus se retirer seul dans le désert et prier. Donc il y avait aussi cette dimension très intime dont je vous parlais à propos de l'enseignement sur la prière de Matthieu 5, du Notre Père, très intime aussi, du culte rendu à Dieu dans cette intimité. Alors ensuite, avec les premiers chrétiens, ils continuaient finalement, c'était pas surtout les juifs, les judéo-chrétiens, ils étaient des juifs pareils, pratiquants, donc ils allaient aussi au temple, on le voit, hein, ils allaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple pour témoigner, pour prier. Ils persévéraient aussi dans l'enseignement des apôtres, donc on voit que s'ajoute finalement à la méditation de l'écriture, à la synagogue, on les voit souvent à la synagogue, Paul, les autres. Donc ils se retrouvaient entre eux pour faire mémoire, mais finalement comme avec l'écriture déjà, mais de ce qu'avaient dit les apôtres, de ce qu'avait dit Jésus. La communion fraternelle, on retrouve un peu le repas de Néhémie finalement, avec déjà cette mémoire, je pense, du repas comme si Jésus était présent, si vous voulez, Jésus présent par la mémoire de ses paroles, par peut-être la fraction du pain qui faisait mémoire de la dernière scène, mémoire aussi du sacrifice de Jésus sur la croix. Et puis, bon, il y avait aussi les prières, et puis il y avait la solidarité qu'on retrouve aussi dans Acte 2 et qui était aussi présente dans Néhémie 8. Alors je mets pour terminer Acte 20, si vous voulez, on le voit que le premier jour de la semaine, peut-être qu'effectivement le samedi ils étaient à la synagogue et que le dimanche, le premier jour de la semaine, symboliquement aussi, parce que le samedi c'était le septième jour, et ils ne sont plus dans l'ère normale, on est dans l'ère messianique. L'ère messianique, c'est plus un temps sur sept jours, c'est le huitième jour, sur une semaine qui n'en compte que sept. C'est-à-dire que, vous voyez, le compteur du temps est explosé en Christ, on est dans l'éternité déjà. Et donc, la résurrection, c'est le huitième jour, c'est le lendemain du Shabbat, c'est l'aube d'un nouveau Shabbat, d'une nouvelle ère. Et donc assez rapidement, pour cette symbolique, si vous voulez, peut-être aussi pour des questions pratiques, ils allaient à la synagogue le Shabbat, ben ils allaient le lendemain entre chrétiens. Parce que chrétiens, c'était, pour les judéo-chrétiens, ils n'étaient pas non-juifs. Ils étaient juifs et chrétiens, juifs messianiques. Et donc ils étaient juifs le samedi avec les autres et... Le huitième jour, comme une nouvelle ère, ils étaient dans cette méditation, finalement, autour du Christ. Il y avait cette fraction du pain, encore, qui exprime donc peut-être aussi l'humanité comme corps du Christ, hein, cette union du peuple autour de Christ. Fraction du pain dans les prières. Et puis, on voit Paul qui prêche si longtemps, donc... que Eutychus tombe par la fenêtre de sommeil. Donc, vous voyez, les prédications, vous plaignez que les prédications sont trop longues. C'était encore pire à l'époque, puisque c'était si long qu'on s'endormait, tombait par la fenêtre. Par contre, Jésus, dans sa prédication dans Luc 4, je ne vous l'ai pas mis, mais là, c'est assez court. Ça dure une seule phrase. C'est « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça, c'est de la prédication. C'est de l'actualisation. Et puis finalement, Apocalypse 21, j'ai mis pour terminer de la Genèse à l'Apocalypse, hein, voilà que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est un des seuls, des rares occurrences du mot Tout-Puissant pour Dieu dans la Bible, est son temple, ainsi que l'agneau. Voilà, en fait, tout le monde est en ligne directe avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Donc voilà ce que... j'ai retenu pour vous. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces traces bibliques? Je ne sais pas. J'ai oublié des choses que vous auriez voulu, que vous avez en tête, c'est de voir dedans. Des choses pas trop claires?
Moi, je remarque une chose, c'est que dans Amos 5, par exemple, ce qui est frappant, c'est qu'il y a toute une série de rites. dans ces assemblées de l'Holocauste.
Oui.
Il y a une absence de parole, de recherche, de réflexion commune. Le culte n'est pas, le rassemblement n'est pas le lieu de cela. On accomplit des gestes, qui ont peut-être une signification plus ou moins avérée, etc. Et dans Néhémie, par contre, il disait et donnait du sens, Lévite.
Alors peut-être.
Ma question était, est-ce que ça a mis longtemps historiquement à passer à une réflexion qui soit située dans le culte ?
Peut-être qu'Amos, il ne l'a pas mis parce que c'est peut-être la seule chose qu'il garde, en fait, de ces. Peut-être la seule chose qu'il garde de ça. Quand même, on voit, à mon avis, bon, en tout cas, mais alors c'est difficile de. Je ne sais pas exactement, parce que si vous voulez, par exemple, on voit Moïse qui, quand même. Répète ce que Dieu a dit sur la montagne et le répète à tout le peuple et puis le peuple dit oui, c'est ça qu'on veut faire. Donc on pourrait dire ça, mais est-ce que c'est Moïse qui l'a fait donc avant même qu'ils entrent en Israël, ou est-ce que c'est le livre de l'Exode et des Nombres qui a été rédigé après l'exil, si vous voulez. C'est difficile ensuite de dire. Quand on lit le Deutéronome, ça n'a pas été écrit du temps de Moïse, ça a été écrit plutôt du temps de Néhémie, vous voyez. Donc c'est difficile de dire qu'est-ce qui se faisait du temps de Moïse. Si ce n'est que quand même, moi je pense que le décalogue, typiquement le décalogue, c'est de l'enseignement qui a fait le peuple en fait. Donc l'enseignement du décalogue. Et par exemple, dans le Shema Israël, c'est-à-dire cette prière fondamentale du juif qui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un », et puis cette mémoire de la loi, finalement, que le juif fait chaque jour, le matin, le soir, qui fait... Ouais, ben c'est ça qu'a fondé Israël. C'est quand même cette mémoire de la loi, mémoire d'une peut-être du décalogue comme constitution du peuple, en fait, je pense. Donc, à mon avis, c'est fondateur quand même d'Israël, cet enseignement, un enseignement, moi, je pense. Oui. Ensuite, il y avait plein de lieux de culte à gauche, à droite, et donc ça s'est mélangé, et puis finalement, il en est sorti, à mon avis, le meilleur. C'est vraiment... Ces synagogues qui étaient des lieux de, et ces maisons d'études qui étaient des lieux de débat théologique, d'interprétation très pluraliste, qui étaient formidables, qui étaient véritablement formidables, que l'Église chrétienne a un peu oublié à partir du IVe siècle, quand ils ont voulu verrouiller avec un seul credo, avec une hiérarchie qui impose le dogme. Dans la synagogue, il y avait, dans ces maisons d'études, il y avait des écoles, il y avait des. Mais il y avait un vrai lieu de débat, avec peut-être quelques points fixes comme le chemin Israël, comme le décalogue, comme je ne sais pas. Mais tu connais.
J'ai bien des idées, mais on peut partager les questions plutôt que les réponses. Puis sinon, en basculant sur l'autre séquence, on va.
On passe sur l'autre rive.
J'ai une question qui n'est pas forcément très avec le culte, mais quels sont les gestes religieux chez les protestants dont vous parliez tout à l'heure ?
Tu vas en parler ?
Oui, on va parler un peu des gestes, du mobilier, du vocabulaire.
Oui, ça,
des vêtements ?
Aussi, très important.
Très important.
Primordial.
En tout cas, l'imposition des mains, si vous voulez, qui est dite à la bénédiction à la fin ou... Ça, c'est un des gestes qu'on voit ici et qui sont très anciens, si vous voulez, un geste de consécration, un geste de création de la personne.
Alors, je vais passer une première feuille, j'en ferai passer d'autres après. Photocopie tirée du livre que Laurent Gagnebin a écrit dans les années 90, « Le culte à cœur ouvert », et qui termine avec... la présentation de différents déroulés de culte, donc différents ordres de culte protestants, en commençant par la messe allemande de Luther, et puis terminant avec aujourd'hui. Et on va voir à travers cette évolution, tout d'abord ce qui structure les cultes et du coup ce qui fait sens, et puis voir quelles sont les différentes sensibilités qui s'expriment, peut-être à travers les différentes traditions plutôt qu'à travers les différentes époques. Vous constaterez au passage qu'ici on n'est pas très calviniste, et vous essaierez de voir pourquoi, je vous le dirai. Faisons un grand saut hein, entre la période des premiers judéo-chrétiens jusqu'à la Réforme, pour dire que globalement, la vie cultuelle, le culte, commence par être effectivement ce qu'on a dans le livre des Actes, c'est-à-dire on partage le pain et le vin. Grosso modo, ça se passe comment ? On fait un bon repas, et puis à un moment donné, dans le cadre de ce repas, on fait mention du Seigneur, sa vie, sa résurrection, enfin sa mort, sa résurrection. On partage de l'Évangile, on chante quelques psaumes, et ça se fait, je dirais, à la bonne franquette, en quelque sorte. C'est ensuite que ça va s'institutionnaliser, notamment avec les gestes d'Église, à commencer par le baptême, qui va développer ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, l'arcane. Et du coup, on va avoir des lieux de culte qui vont formaliser le fait que la vie chrétienne est une initiation progressive. Vous avez vu ça peut-être quand vous visitez des anciennes églises byzantines, avec notamment un narthex, c'est-à-dire une sorte de vestibule à l'entrée dans lequel les catéchumènes étaient reclus quand il y avait la communion à laquelle ils ne pouvaient pas avoir accès tant qu'ils n'avaient pas eu leur formation. Et donc, vous voyez, un peu comme autrefois le temple de Jérusalem, où plus on approchait du cœur, plus on était dans un état de sanctification, eh bien on va reproduire avec les églises byzantines cette progression vers le centre de l'église qui indique la progression individuelle du croyant. Et petit à petit, il va y avoir aussi une progression dans le déroulement de la célébration, avec une tendance au départ qui est que le culte n'est pas un culte rendu à Dieu, c'est en fait le culte de Dieu. On parle de liturgie divine. Vous voyez, c'est comme si le divin nous donnait les mots et les gestes pour avoir une vie authentique. Hein, plutôt que de se dire comment faire pour rendre un culte à Dieu, eh bien en fait, l'Église disait « Voici le culte que Dieu vous offre ». Et ça, ça correspond un peu à une idée qu'on trouve dans un petit passage du livre de l'Exode qu'on peut aussi évoquer sur la question du culte. C'est après le Décalogue, c'est au chapitre 20 donc, du livre de l'Exode, quand on donne les prescriptions pour bâtir l'autel sur lequel doivent avoir lieu les sacrifices. Il y a une phrase qui est tout à fait intéressante, c'est Dieu qui dit « Partout où je prononcerai mon nom, je serai présent ». Donc c'est l'idée que ce n'est pas nous qui invoquons la présence divine et qui du coup convoquons Dieu, c'est Dieu qui se rend présent, qui crie son nom en quelque sorte, et c'est ce cri-là qui nous appelle, tout ce que Marc disait sur l'Ecclésia, Cal, l'Assemblée, etc. Donc, la liturgie divine, et puis d'un autre côté, alors la liturgie divine, vous voyez, ça c'est toute la tradition orientale. Si vous allez dans une église arménienne aujourd'hui, on a encore une liturgie byzantine qui date de Jean Chrysostome, hein, de 4e siècle, toujours le même rituel. Des fois, on parle de Saint-Office. Hein, c'est l'idée aussi qu'il y a quelque chose que nous recevons et non pas quelque chose que nous avons élaboré. Et puis, dans l'église d'Occident, on va plutôt être sur un déroulement liturgique qui est une sorte de catéchèse, qui est une sorte de pédagogie qui vise à enseigner. Et comme c'est plutôt notre contexte de tradition, c'est là-dessus que je vais vous embarquer pour voir un peu comment les choses se jouent. Donc si on veut avoir un peu un état de la messe au fin Moyen-Âge, il suffit de regarder la messe façon Luther, en fait. Quel est l'apport de Luther? Vous l'avez sûrement entendu, c'est le fait qu'on va passer du latin à l'allemand. D'où messe allemande de Luther. Vous comprenez que c'est tout à fait décisif, parce que si on vous faisait le coup de faire une liturgie en grec, ça ne serait pas forcément formidable au niveau de la compréhension. Vous trouveriez ça certainement beau, voire séduisant, mais ça ne serait pas extrêmement structurant. Or, les réformateurs veulent que les gens puissent comprendre et que la raison participe de la foi, comme c'était l'enseignement d'Augustin. Donc vous avez avec ce déroulé une présentation de ce qu'était la célébration à l'époque de Luther, et vous voyez qu'il y a des tirets au milieu qui indiquent qu'il y a dans un premier temps quelque chose qui serait avec le, comme point d'orgue la prédication, puis dans un deuxième temps qui serait autour de la communion. Il y avait la célébration de la scène à chaque culte dans la tradition luthérienne. Et ce qu'on peut dire déjà, comme ça, en regardant de haut, c'est qu'il y a dans la tradition cultuelle luthérienne ce qu'on appelle une ellipse à double foyer. Gardez cette mention en tête, ça se permettra de distinguer le culte catholique du culte luthérien, du culte réformé. Ellipse à double foyer, c'est-à-dire qu'il y a deux centres dans le culte luthérien. Il y a la prédication et il y a la communion. Les deux sont à égalité. Alors que dans la tradition catholique, le centre, c'est l'Eucharistie, et que dans la tradition réformée, le centre, c'est la prédication. Dans une messe, au sens catholique du terme, il ne peut pas ne pas y avoir de communion. Dans la tradition réformée, dans un culte, il ne peut pas ne pas y avoir de prédication. Et pour les luthériens, c'est fromage et dessert.
C'est fromage et dessert, ou c'est fromage, dessert, ou fromage, dessert.
Prédication et communion.
Donc c'est d'abord la prédication, puis la
communion. Oui, il y a quand même cette idée que la communion est soumise à la prédication. Même si, en fait, ça serait davantage vrai dans la tradition réformée. Prenons un cas très pratique. Hein. Qui peut célébrer ? Eh bien, dans l'Église luthérienne, seuls les ministres ordonnés peuvent présider le culte. Dans la tradition réformée, toute personne qui a un mandat du conseil presbytéral peut présider un culte. Il est reconnu comme étant capable, même s'il n'a pas été ordonné pasteur. Donc, cela signifie qu'on est resté quand même dans ce schéma de l'Église catholique où le célébrant a un statut très particulier. C'est-à-dire que l'ordination dit que ça se joue dans la nature de la personne et que ce n'est pas simplement une fonction. Puisque la fonction, c'est justement le fait de pouvoir recevoir un mandat ponctuel de la part d'un conseil presbytéral. Est-ce que ça répond à la question ?
C'est très clair. Donc, chez les luthériens, il y a d'abord la prédication, puis le...
Dans le déroulé, ça a toujours été comme ça, mais en fait, même dans l'Église catholique, d'ailleurs. Il n'y a jamais d'homélie après... la communion, ne serait-ce que pour dire qu'on finit par ce qu'il y a de meilleur.
Les points de fuite sont alignés. D'abord, on converge d'abord la prédication, puis le...
Disons que dans l'Église luthérienne, c'est deux sommets, en fait. Alors, rapidement, on peut passer sur le... On peut prendre en revue, comme ça, la messe allemande. Donc, vous voyez, un psaume, Kyrie, c'est... Bon, Kyrie, ça veut dire Seigneur en grec, c'est le début de Kyrie eleison, donc c'est une repentance, une prière d'humilité. La collecte, c'est pas le moment où on donne tout de suite l'argent, c'est le rassemblement des prières. Collecte, c'est un terme plutôt lié à la prière. Cantique, un évangile chanté, vous savez que c'est encore souvent la tradition dans les messes catholiques. Ensuite, le credo, qui est celui de Nicée, je vous le montrerai tout à l'heure, chanté également. La prédication, une paraphrase du Notre Père, et puis ensuite, on passe donc à la partie eucharistique, qui est très simple. Une exhortation, ça veut dire expression de la volonté de Dieu. On consacre le pain, on le distribue. On consacre la coupe, elle est passée. Et puis, un Agnus Dei, un cantique, une prière d'action de grâce, bénédiction, et à dimanche prochain. Vous voyez, il est précisé évangile. On prêche sur l'évangile. On n'est pas dans la perspective prêchons sur l'ensemble des textes bibliques. Dans la tradition luthérienne, il y a un peu cette idée d'une théologie quand même crucicentriste, centrée sur la personne du Christ et du Christ crucifié. Hein. C'est un peu l'idée de Paul, je ne veux rien savoir d'autre que le Christ et le Christ crucifié. Ce qui fait que quand on représente Luther en train de présider un culte, on le voit en chair, et il prêche en désignant le crucifix du doigt. Hein, il y a un crucifix, souvent dans les églises luthériennes, et il renvoie en fait au Christ. Et évidemment, c'est une façon de dire que tout doit converger vers l'événement Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Avec Calvin, il y a trois colonnes qui correspondent d'une part à l'institution de la religion chrétienne, d'autre part à son passage à Strasbourg, et puis de son long séjour à Genève. Ce qui est intéressant dans ces trois colonnes, c'est qu'on voit la différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, quelque chose de très léger, c'est l'institution de la religion chrétienne. Petite prière, bonne prédication, et puis ensuite l'Eucharistie quatre fois par an, enfin, la communion quatre fois par an. Pratiquement, ça n'a jamais eu lieu, ça a toujours été beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendre les choses visibles, matérielles, palpables, sensibles. On ne peut pas se contenter de cette idée qui aurait peut-être séduit un peu Karl Barth, une transcendance absolue qui n'a pas besoin d'une longue préparation. La liturgie, elle prépare un peu la prédication, finalement. Elle est comme un cheminement vers le cœur du culte, qu'est la prédication. Là, c'est l'idée qu'on va droit au but. Bon. Manifestement, ça n'a jamais eu lieu. Donc, une invocation, une confession du péché. Il y en a une qui est très connue, qu'on utilise souvent pour le culte de la Réformation, qui est soit de Théodore de Besse, soit de Jean Calvin. Quelques paroles de l'Écriture pour consoler les consciences. C'est des expressions de Calvin. Donc, ça serait en quelque sorte l'annonce de la grâce qui se poursuit par une absolution. Donc, l'annonce de la grâce telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, le décalogue exprimé en deux temps. Ensuite, le ministre monte en chaire, courte prière liturgique, une prière qui est l'oraison dominicale, donc, lecture, on chante, le sermon, et puis après la prière d'ouverture, et puis vous voyez ensuite le déroulé classique. Donc ça, c'est à Strasbourg. Quand il était à Genève, il réussit manifestement à avoir une première partie, c'est-à-dire avant le sermon, qui est plus ramassée. Il faut comprendre que quand il était à Strasbourg, il était aumônier de la communauté francophone, il était dans un bain luthérien en fait. Donc il y a certainement une sorte de contamination de la pratique de Jean Calvin par le bain luthérien de proximité. Si on passe de l'autre côté, si on tourne la page, Eugène Bercier, donc, qui était pasteur à l'Étoile, qui est l'un des grands artisans de la réforme liturgique au XIXe siècle, et qui va être un petit peu luthérien. Par exemple, c'est lui qui va dire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au temple de l'Étoile, mais il va dire, eh bien en fait, c'est la chair qui est au pied de la table de communion. C'est-à-dire qu'il était dans une sorte de renversement par rapport aux réformés qui disent la prédication est au-dessus de tout, et donc la chair est au-dessus de la table de communion, et que la table de communion est donc au pied de la chair. Il disait non, c'est la chair qui est au pied de la table de communion, pour dire l'importance qu'il a accordée non seulement à la liturgie, mais aussi à la communion. Et donc c'est lui qui va instaurer un ordre beaucoup plus détaillé, un ordre beaucoup plus exhaustif que ce que Calvin avait finalement réussi à mettre en place à Genève. Donc on va passer rapidement dessus, sinon pour voir qu'il y a l'éternel psaume, invocation, qu'on a encore un petit peu de nos jours. Le sommaire de la loi, donc vous voyez l'annonce de la volonté de Dieu, ensuite une promesse de grâce, une confession, et ça c'est un ordre spécifique. Loi, grâce, confession du péché en l'occurrence, puis absolution. C'est un ordre assez inédit qu'on ne trouve ni dans l'Église catholique, ni dans notre tradition réformée de nos jours. Trois lectures qui vont précéder le sermon, Ancien Nouveau Testament et une épître. Donc en fait, ça veut dire Ancien Testament, Évangile et épître. Ce qui est le cas aujourd'hui dans ce qu'on appelle le lectionnaire, c'est-à-dire cette liste des lectures bibliques pour les dimanches, qui peut avoir une dimension œcuménique, qui est utilisée par les églises catholiques et protestantes qui veulent s'y associer. Donc c'est l'idée de parcourir la Bible l'essentiel de la Bible en 3 ans, et donc à chaque fois avec une leçon d'Ancien Testament, un passage d'une épître et un évangile. Bon, je passe ensuite sur les autres étapes. Richard Pakier. Donc vous voyez, on est dans une autre dénomination, ordre du service divin. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la divine liturgie. Richard Pakier, donc en 54, avec là encore un ordre, je dirais, un petit peu luthérien. Hein. L'ordre luthérien, vous le repérez quand en fait il est en deux parties. Une première partie, la parole, une deuxième partie, le sacrement. Et donc, vous voyez le détail, le soin méticuleux à ce que nous avancions pas à pas dans la liturgie. Donc, je vous laisserai regarder dans le détail chez vous ce qui constitue l'ensemble de ce déroulé. Et avec une partie sacramentelle qui intègre le souhait de paix, par exemple, ce qui n'est pas une tradition protestante bien attestée, hein, le geste de paix. C'est pas quelque chose qui se fait habituellement. Et donc c'est cette idée en fait d'une célébration qui est des accents œcuméniques. C'est une célébration qui s'efforce de pouvoir rejoindre la tradition catholique pour permettre le plus de ponts possibles entre les personnes, et notamment à une époque où il y a de plus en plus de couples mixtes. On est en 1954, les couples mixtes deviennent une réalité, et il s'agit pour Richard Pakier de penser comment la liturgie protestante peut évoluer pour que les familles mixtes, œcuméniques, ne soient pas déchirées. Et que lorsqu'un conjoint se rend dans l'église de l'autre, il ne soit pas trop dépaysé. Ensuite, en 1963, la liturgie verte, c'est-à-dire le déroulé qu'on a à l'oratoire. Alors, à peu de choses près. Donc, c'est là que vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est, de mon point de vue en tout cas, un déroulé luthérien. Alors, je vous lis les différentes étapes, puis vous me dites, essayez de trouver pourquoi c'est luthérien et pas réformé. Donc, salutation, invocation. Donc ça, ici, c'est en général joint en deux. Adoration, ça serait la louange au départ. Loi de Dieu, qu'on appelle volonté de Dieu. Confession du péché plutôt que des péchés, parce qu'il ne s'agit pas de faire la liste, il s'agit plutôt de reconnaître sa condition. Déclaration du pardon ou annonce de la grâce. Ensuite, confession de foi. Prière d'illumination, qu'on met en général plutôt après la lecture biblique et avant la prédication. Ensuite, annonce, offrande, prière d'intercession, et puis de temps en temps, la célébration de la scène avec une préface, une institution, la prière eucharistique, invitation, fraction, élévation, communion, action de grâce, et puis après, exhortation et bénédiction. Alors, je vous avais dit, souvent, c'est luthérien quand c'est en deux parties, une partie autour de la prédication et une partie autour de la communion. Là, c'est pas le cas, mais pour moi, c'est un usage luthérien sur un autre motif. Est-ce que vous avez une idée? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous faire mariner, mais si vous avez une fulgurance, c'est le maintenant. C'est l'usage de la loi qui fait toute la différence. Vous avez ici un ordre qui est loi de Dieu, confession du péché, déclaration du pardon. Eh bien ça, c'est ce que j'appellerais l'usage luthérien de la loi, c'est-à-dire la loi qui permet de mettre en évidence le péché, la faute. Hein, c'est l'usage pédagogique. C'est ce que Paul dit dans son épître. La loi révèle le péché. Ah, s'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas le péché. Hein, s'il n'y avait pas le code pénal, il n'y aurait pas de problème, en quelque sorte. La loi est là pour mettre en évidence la distance qu'il y a entre ma vie et la vie rêvée du chrétien. Donc, loi, confession du péché, et puis annonce de la grâce, c'est-à-dire la réconciliation. Un usage réformé mettrait la loi tout au bout. C'est-à-dire que c'est le troisième usage de la loi selon Calvin. Le deuxième, c'est l'usage civil, c'est-à-dire qu'il faut de la loi pour réguler un petit peu notre vivre ensemble. S'il n'y a pas de code de la route, c'est un peu la catastrophe quand même. Le troisième usage, c'est l'usage éthique. C'est la loi qui me donne l'idée de la direction dans laquelle il faut se rendre. C'est la loi qui trace un panorama vers lequel nous pouvons nous rendre. C'est donc la loi comme un chemin. La prière de repentance, c'est prendre conscience de notre état, qui est un état inachevé. L'annonce de la grâce, c'est dire que Dieu nous rend capable de. Et capable de quoi ? Eh bien, c'est justement la loi qui le dit. Donc, la loi qui vient après l'annonce de la grâce, voici ce que Dieu te rend capable de faire. Et ça, on peut le voir un peu dans ce document que je vous passe. Donc, je passe tout de suite sur la page de droite, et on reviendra sur la page de gauche après. La page de droite, donc, c'est la suggestion de Laurent Gagnebin, qu'il avait faite donc dans les années 80. Donc, vous voyez, c'est cette trilogie, non pas loi, confession du péché, annonce de la grâce, mais confession du péché, parole de pardon et loi. Et la confession de foi est rapportée après la prédication. Dans notre ordre ici, la confession de foi est après la grâce et avant la lecture biblique. Ici, la confession de foi est après la prédication. C'est d'ailleurs l'un des usages possibles dans les églises réformées actuellement, dans la liturgie de notre union d'église. C'est intéressant parce que mettre la confession de foi après la prédication, c'est de dire que la prédication est vraiment un lieu d'exploration, un lieu de grande liberté, que le prédicateur a vraiment toute liberté pour exploiter les potentialités du texte biblique, peut-être même d'aller au-delà de ce qu'on attend de lui, peut-être même au-delà de ce qu'il imagine. Et puis il y a quand même la barrière de sécurité, c'est-à-dire qu'après il y a la confession de foi qui rassemble la communauté dans une expression commune et reconnue. Hein? Finalement, il y a cette idée que la confession de foi après la prédication, ça permet d'éviter l'éclatement de la communauté. Au pire, si le prédicateur allait dans une voie qui n'était pas forcément très évangélique, eh bien la confession de foi pourrait être une sorte de parachute qui récupère un peu. Donc ça peut être une façon de comprendre ça. Ça peut être compris comme justement l'autorisation accordée au prédicateur. Pardon ?
Je trouve qu'il y a une refermeture, je suis d'accord avec vous. Ça referme après ce moment d'ouverture, c'est étonnant. Oui.
Alors soit ça referme, soit ça rassemble. Mais le fait de rassembler ne veut pas dire fermer. C'est le propre du symbole. Le symbole rassemble. Il unit ce qui est désuni.
Sauf qu'effectivement, on compte à ce moment-là sur une frontière, c'est-à-dire sur du dogme pour rassembler, et non pas sur une personne qui est Jésus-Christ, et une méthode qui est cette confiance en Dieu, cette recherche, machin. C'est vrai que ça, c'est déjà un paradigme beaucoup plus, à mon avis, catholique, ou plutôt constantinien. Je veux dire, voilà, il faut du credo pour unir la communauté. Enfin bon, je sais pas, hein. Après, ça dépend, on peut toujours dire tout et tout, hein, vous savez. Ça dépend, il faut demander à Gagnevin, lui, comment il le voit. Il le voit comme ça, lui, pour...
Ben, en tout cas, c'est la suggestion que lui fait.
Oui, mais de, que le credo, que pourrait-il le mettre à cet endroit-là? Il l'explique peut-être, je ne sais pas.
On a l'impression que dans les liturgies, ce n'est pas la prière du Notre Père qui a une espèce de fonction de rassemblement.
Ça, c'est vrai que c'est sympa, ça. Oui. Oui, c'est vrai.
C'est variable. Parce que, par exemple, ici, globalement, pendant un bon bout de temps, la tradition, c'était que personne ne la dise.
C'était intériorisé.
Souvent dans les églises, tout le monde dit le Notre Père. Mais là, personne ne le disait.
À l'oratoire, la tradition, c'était ou c'est qu'il y a que le. Voilà, que c'est dit à une.
Voilà. Voilà. Il n'y a pas de normalité. Il n'y a que du pathologique.
Avant, il n'y avait que le pasteur. L'idée, c'est que ce soit
intériorisé.
Dans les lieux, plutôt les paroisses libérales, en fait. C'était l'idée, voilà, que c'était intériorisé et que, bon, il ne s'agit pas d'obliger les gens à le dire. Voilà, maintenant, on va vous apprendre la leçon et vous répétez bien tous ensemble. L'idée, voilà, chacun, bon, si vous voulez prier autre chose pendant ce temps-là, vous avez le droit. Mais voilà, c'est cette prière qui est intériorisée, voilà. Par contre, ce qui mène, il a raison, je trouve, en fait, ça, c'est la chose qui nous manque, c'est quand même le troisième usage de la loi dont tu disais, à la fin, exhortation, c'est-à-dire, en fait, c'est de la loi. Indispensable si la lecture de la loi précède la confession du péché. Monsieur Lestra, c'est d'accord, ça nous manque quand même à l'oratoire, c'est d'avoir enlevé...
De mettre la loi après la confession du péché, l'équivalent, en fait.
Ou d'avoir les deux, quoi. Avoir une loi avant la confession du péché, puis une loi à la fin en exhortation. C'est...
Et puis une loi au milieu pour dire comment on va communier et qu'il n'y ait pas d'embouteillage dans les travées.
Ce serait le premier et le troisième usage de la loi, on garde les trois.
Je vous fais passer un autre document, ce coup-ci, c'est sur la messe. Donc on ne va pas y passer trop de temps, mais ça vous permet comme ça de voir... aujourd'hui, un déroulement de la messe, avec en plus la légende, quels sont les instruments liturgiques utilisés à tel ou tel endroit. Donc si jamais vous allez dans une église où on utilise encore les instruments liturgiques, ça vous permettra de vous repérer plus facilement. Je vous donne ce document pour vous montrer qu'un déroulé de messe aujourd'hui est quand même assez proche d'un déroulé de culte. Si vous enlevez la procession d'entrée, quoique il y a un petit bout de procession après tout chez nous, vous retrouvez avec donc, bon, évidemment, une salutation. La différence là, c'est que la confession de foi, elle précède tout. La confession de foi est avant la prière de repentance. Et puis le Gloria est une façon d'entendre quelque chose qui est de l'ordre de l'annonce de la grâce. Ensuite, il y a toutes les lectures, prédications, etc. Et puis, vous avez sur l'autre document, vous avez un peu le détail sur les contenus, avec notamment le symbole de Nicée, comme ça, si jamais vous ne l'aviez pas eu sous les yeux depuis longtemps, ça vous permet de réactualiser. De quoi ?
On n'a pas eu la petite flèche comme ça.
Ben, ça arrive, je pense.
Ah, ben, c'est dans le sens, ça va, d'accord. D'accord. Voilà.
Alors, il y a entre l'Église catholique et l'Église protestante une différence qui saute aux yeux, c'est le vêtement. Enfin, entre l'Église catholique et l'Église réformée, parce que l'Église luthérienne est parfois alignée sur l'Église catholique. C'est d'une part la couleur, blanc pour les catholiques et noir pour les réformés, mais c'est aussi ce que ça signifie, puisque dans l'Église catholique, c'est un vêtement liturgique, alors que dans l'Église réformée, c'est un vêtement académique. Il y a dans la tradition catholique l'idée que c'est l'habit qui désigne le prêtre qui, par nature, est le diacre de Dieu. Enfin, diacre, c'est peut-être pas le bon mot, mais du coup, le lieutenant de Dieu sur terre. Alors que la tenue académique, c'est une manière de dire que celui qui va prêcher, puisque c'est ça la fonction essentielle du culte, celui qui va prêcher a fait quelques études nécessaires pour qu'il soit en mesure de pouvoir interpréter le texte. C'est-à-dire qu'il soit en mesure de pouvoir aider la communauté à faire le voyage jusqu'au monde du texte et ensuite le voyage jusqu'au monde de l'assemblée. C'est une sorte de double voyage. C'est ça l'herméneutique. C'est de pouvoir rejoindre le texte dans ses potentialités et ensuite de le faire vibrer par rapport à notre actualité. Donc le vêtement académique est là pour cela. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il fallait mieux. Alors, pour eux, du coup, c'est un vêtement liturgique qui est blanc, comme dans l'Église catholique, pour renvoyer à la dimension de Pâques. Ils vont dire c'est l'aube de Pâques. Ce qui ne veut pas dire que le noir réformé soit les ténèbres de Vendredi Saint. Hein. Bien. Par contre, moi, sur ma robe pastorale, j'ai 13 boutons. Je ne sais pas si ça porte malheur. Mais... Vous voyez cette évolution qu'il y a au fil du temps, et notamment dans la tradition réformée, d'une prédominance de la parole et du sens. Il ne s'agit pas tant de faire que de partager la parole, et je dirais qu'il y a là une double fonction. C'est l'accès au langage, dont la tradition protestante, dans la perspective biblique, dit que c'est la condition de l'humanisation, hein, c'est-à-dire que accéder au langage nous permet d'être humain. On parlait de Abel et Caïn, ils font leur culte, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer, donc il y en a un des deux qui meurt. Donc on voit bien que l'accès au langage, c'est une condition sine qua non pour accéder à une humanité voulue par Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est de créer des impulsions. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le culte fasse ce qu'il dit. Je vais m'expliquer en prenant, pour exemple, la théologie du process. C'est-à-dire le culte comme un processus. Un processus qui nous fait accéder à notre humanité par la question du langage, mais plus que cela, par la question du sens. Et pour vous faire comprendre cela, je reprends un texte de Raphaël Picon, qui dit ceci. Imaginons un homme d'une trentaine d'années, il n'a jamais fréquenté les églises, ne connaît pas grand-chose à la Bible, aux évangiles. Sans être athée, il rechigne à se dire croyant. Et puis il rencontre du monde qui fréquente un peu des églises. Et puis du coup, il se dit qu'il pourrait voir ce qui se passe dans un temple, se faire une idée par lui-même. Ne serait-ce que pour avoir un peu plus de répondant face à son ami si intarissable et passionné parce qu'il fréquente l'oratoire du Louvre. Il vient au culte, il écoute les différentes prises de parole sans toujours comprendre ce que cela signifie. Il trouve certains textes assez poétiques, d'autres le laissent plutôt indifférent. Il est impressionné par la musique, l'orgue notamment, une musique qu'il n'aime pas vraiment, qui fait trop musique d'église, mais qui ici le frappe par sa vitalité, sa puissance et toutes ces notes qui tourbillonnent, les sons qui s'enchevêtrent. Tout cela en est presque vertigineux. Vient le moment de la prédication. Le pasteur parle d'une femme, une dénommée Rachel, qui donne naissance à son fils, qui va mourir et qui refuse d'être consolée, qui ne veut pas qu'on lui dise que sa peine n'est pas grave et doit être effacée. Le pasteur parle de la souffrance, du mal, il est très en colère contre l'idée d'un Dieu qui nous sacrifie, qui nous demande de nous sacrifier. Il critique aussi beaucoup les églises dans leurs discours moralisateurs, qui font de l'homme un moins que rien. Le pasteur parle aussi beaucoup de la beauté dont les hommes et les femmes sont capables, de la confiance qui leur permet de dire oui à la vie, de dire non à ce qui nous empêche de bien vivre. Tout se mélange un peu. Notre homme est vraiment surpris par cet homme qui parle, par sa liberté surtout, lui qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il est aussi surpris par lui-même, surpris de s'être laissé intéresser et surprendre. En y repensant après coup, il ressent qu'il a été touché par le fait que le prédicateur soit vraiment habité par une présence qui passe à travers sa parole. Une présence qui semble être communiquée à l'assemblée, qui semble être visible par l'assemblée. Il est touché aussi par le sentiment de gentillesse, de bienveillance, une certaine bonté qui se dégage de l'ambiance particulière de ce culte. Les paroissiens y sont aussi pour quelque chose, oui. Notre homme est transformé par cette prédication. Il retourne à l'église et commence à s'intéresser à ces textes de la Bible. Il trouve qu'il raconte des histoires qui lui semblent très crues, sans fioritures, sans aucune censure. Il est frappé par le souffle de liberté et de créativité qui anime ces histoires et ces personnages bibliques. Il participe aussi plus régulièrement au culte. De dimanche en dimanche, au fil de ses lectures, de discussion en discussion, il est stimulé par des convictions, des paroles, des idées qui finissent par le faire réfléchir à sa propre vie, à ses relations aux autres, à son passé, à des gens qu'il ne voit plus, à son avenir aussi. Parce qu'il y prête attention, son existence lui semble plus consistante qu'avant, moins banale et indifférente. Sa vie lui paraît même pouvoir être plus épanouie, plus harmonieuse, et peut-être est-elle déjà moins mécanique et moins superficielle. À travers ses recherches, les événements de sa propre histoire, de son histoire passée, prennent un autre relief. Certains événements, certaines paroles aussi ressurgissent, sortent de l'oubli. Inversement, certains événements auxquels il pensait aussi souvent, assez souvent, lui semblent moins importants. Vous voyez, l'idée que le culte est ce pouvoir transformateur dont la théologie du process dit qu'il est justement la trace de Dieu. Et du coup, on rejoint l'idée de ce service divin, de cette divine liturgie, où il ne s'agit pas simplement de faire bonne figure pour s'attirer la bienveillance de Dieu, mais il s'agit de se mettre au bénéfice de cette histoire que Dieu veut construire avec l'homme. Pour finir, je vous évoque une tierce position protestante, c'est celle de la Société des Amis, plus connue sous le nom de Quakers. Les Quakers. Donc c'est une tradition, disons, plutôt piétiste et du réveil du protestantisme, donc qui apparaît plutôt vers le 19e siècle. Eh bien, si nous étions Quakers, nous n'irions certainement pas dans un lieu comme celui-là, mais plutôt une salle comme celle-ci, peut-être plus petite, nous serions peut-être même moins nombreux. Ça serait un peu dans cette configuration-là. On se serait assis autour d'une table, peut-être pleine, avec des livres, des magazines, la Bible, bien sûr, dessus. Et puis chacun lirait en silence. Peut-être trouverait-il une phrase qui fait particulièrement sens et il la partagerait avec les autres. Peut-être aurait-il une intention de prière qu'il dirait à haute voix, sans plus. Et puis, au bout d'une heure, celui qui a été désigné pour cela serrerait la main de celui qui se tient à ses côtés, et ce serait le signal pour que chacun se salue comme un signe de communion et de paix, et chacun repartirait chez soi. C'est l'idée d'un protestantisme non sacramentaliste ou non sacramentel, pas de baptême, pas de communion, où on est c'est d'être le plus libre possible, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui impose quoi que ce soit à un autre. On est vraiment dans l'ordre de la proposition, ce qu'essaie de faire les pasteurs en chair. On essaie de ne pas être trop coercitif, mais on l'est toujours plus que ce qu'on voudrait. Eh bien ici, c'est la liberté laissée à chacun de partager. Et donc, c'est l'idée qu'il n'y a vraiment aucun clerc, que chacun est à équidistance, et donc chacun est à la même fonction de rendre disponible ce qui, pour lui, peut être parcelle d'évangile.
On peut rester pour que ce soit une petite communauté.
Oui, là, ce serait un petit peu le maximum, disons. Enfin, ceci dit, un silence à 30, où il y en a 2-3 qui, de temps en temps, évoquent des choses, bon, c'est vivable, quand même.
J'ai fréquenté un temps les sociétés des amis, mais le problème, c'est que ceux qui parlent, ce n'est pas forcément ceux qu'on aimerait entendre parler, et puis ceux qui s'intéressent, c'est ceux qui ont une humilité qui donnerait une chose intéressante. Il y avait, dans les années 70 aussi, il y a eu un essai chez les réformés. Après le culte, il y avait un petit pot fraternel. Après, on se réunissait pour discuter, en fait. Et donc, il y avait un petit peu de... Comment dire, ça s'est fait beaucoup autour de, par exemple, dans la paroisse où il y avait Ricoeur, là-bas, à Palaiso, je ne sais pas quoi, non, c'est pas Palaiso, c'est Robinson. Sinon, il y avait d'autres endroits où c'était comme ça, il y avait un débat à la fin du culte. En fait, c'est pratiquement abandonné partout, parce que finalement, c'était relativement élitiste, du coup. C'est ceux qui, ça se veut démocratique et sympathique, mais... Du coup, il n'y a que ceux qui sont profs d'université, avocats, machin, qui vont avoir le courage de dire des trucs. Et finalement, moi, je trouve que, je suis d'accord avec James, en fait, ça produit que, visiblement, le culte, c'est un lieu de communication très baroque, finalement, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur apporte quelque chose. Alors, c'est quand même étonnant. C'est qu'à mon avis, il y a le fait de se déplacer, sortir de chez soi pour aller là avec des gens qu'on n'a pas choisis. L'ambiance aussi, comme dans ton texte, c'est comme une préparation. Bon, c'est quand même un peu baroque, c'est un peu vintage. Ça prépare à un déplacement. Et puis finalement, on n'est pas tellement d'accord avec tout ce que raconte le pasteur, parce qu'on essaye d'être, voilà, d'explorer un peu des pistes un peu plus compliquées, mais... Du coup, le lieu du débat, c'est un débat intérieur de chacun. Et finalement, ce sont des débats intérieurs de chacun, les questions que chacun se pose. C'est là qu'il y a une vraie démocratie, une vraie confiance, à mon avis, dans le fidèle. Parce qu'on sait que les gens ne seront pas toujours d'accord avec ce qu'on raconte. C'est un peu fait pour, en fait. Et je crois que finalement, c'est là que ça se joue, finalement. C'est dans ce débat intérieur, personnel, celui qui va se poser des questions, réfléchir. Et c'est là qu'il y a une vraie... que ça rejoint chacun dans sa vie de tous les jours, peut-être.
Et je vais vous dire ce qui me touche, moi, dans un culte, parmi d'autres choses. C'est justement que tous ces êtres, toutes ces personnes avec des histoires qui viennent d'ici et de là, des préoccupations diverses, se retrouvent ensemble. Un peu, je ferai la comparaison avec un spectacle, un concert. Ce qui m'émeut beaucoup dans un concert, c'est non seulement la musique quand elle est belle, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est le moment des applaudissements. Comment se fait-il que des gens qui, le moment d'avant, arrivent des quatre coins du monde, applaudissent en même temps et qu'il y ait cette sorte d'unité qui se fasse sans qu'il y ait de mots d'ordre, sans qu'il y ait d'enrégimentement, etc. Il y a dans le culte quelque chose qui nous réunit pour le meilleur dans une loi d'amour et que je trouve très émouvante, moi.
Marc, sur l'idée que dans un débat, c'est pas démocratique parce que les plus malins sont ceux qui vont parler le plus. Ça dépend un peu aussi de l'animateur du débat. Ça met en rôle les personnes. Pour ceux-ci qui ont fait des études aux États-Unis, quand on est français, qu'on démarre dans une université américaine, on est époustouflé au début parce que tous les idiots prennent parole. On se dit, oh là là, je vais perdre mon année à écouter des gars qui n'ont rien à dire parler. Puis au fur et à mesure que l'année se déroule, les profs américains obligent, d'une façon très intelligente, chacun à parler. Du coup, ils créent une espèce de dynamique où chacun, d'une façon assez équilibrée, est obligé de contribuer au débat. Et du coup, les plus lents se mettent au rythme même à un régime plus rapide, et les plus dominants se mettent dans une attitude de plus grand partage. Et au bout du compte, ce qui est assez souffrant, c'est que souvent à la fin de l'année, la dynamique de groupe a quand même emporté l'ensemble vers un vrai résultat.
Donc ça marche avec des groupes vraiment constitués et qui sont pérennes quand même.
Alors. Et une communauté religieuse pérenne.
Pour ce qui est, oui, d'autant que pour ce qui est du culte Quaker, le terme est assez impropre parce que les Quakers considèrent que tout est culte. Donc c'est plutôt un temps de rassemblement et de réflexion. C'est pas du débat en fait. C'est qu'on est là, et puis on découvre une phrase intéressante, on la partage. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre. C'est qu'on a trouvé une belle phrase dans un livre ou dans une revue ou un verset biblique. Et on n'est pas dans l'argumentation en disant ensuite ceci, cela. C'est, voilà, c'est l'accumulation en quelque sorte. Mais effectivement, du coup, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas besoin de réguler. Mais alors, il y a quand même un dispositif chez les Quakers qui permet d'exclure une personne de la communauté en cas de besoin. Il y a des instances de régulation quand même qui existent. Mais bon, en fait, l'expérience montre que ça, il n'y a pas besoin. Parce que les gens se connaissent, effectivement, donc il y a une régulation du groupe.
Moi, pas dans le cul, je ressens l'esprit présent. Et ça, ça m'apporte beaucoup. Voilà.
Merci.
Et pour en revenir à la prédication, le problème n'est pas, je pense, toujours intégralement d'accord avec ce que dit le pasteur. C'est rare qu'on ne soit pas d'accord, je précise.
On n'est pas toujours d'accord avec nous non plus, d'ailleurs.
Mais ce qui est important, c'est que ça nous donne une matière à réflexion. Et ensuite, discuter avec nous-mêmes, savoir pourquoi on est d'accord ou pas d'accord. Et ça nous donne, oui, un sujet d'approfondissement.
D'avoir la prédication après, on lit la prédication, on lit la prédication, il y a des choses qui vous reviennent.
C'est pourquoi nous apprécions beaucoup la formule qui n'existait pas au temps de ma jeunesse, d'avoir le texte du serment imprimé, ça permet d'y réfléchir par la suite. Ça, pour moi, c'est une révolution. Moi, je suis une présentielle oratorienne. Et à ce sujet, d'ailleurs, pour la petite histoire, je note que j'ai remarqué dans l'ordre du service d'après Richard Pasquier, qui remonte à 54, qu'à cette époque-là, et je m'en souviens, il y avait la sortie des non-communiants. Je me rappelle effectivement de la phrase que ceux qui avaient participé à la scène, etc., et que ceux qui veulent s'associer à cette cérémonie étaient priés de se retirer.
On disait à l'oratoire, on disait ceux qui ne désirent pas participer à la communion peuvent se retirer pendant le jeu d'orgue qui suit le Notre Père. C'était pas l'idée que certains étaient exclus, c'est que on avait la liberté de pas trop savoir ce que ça veut dire, de pas trouver le trouver du sens. Et ben à ce moment-là, on avait le droit de retourner à son déjeuner. Oui. Oui.
Oui. Je pouvais très bien imaginer de rester assise et de ne pas y participer.
Mais oui.
Ça a son importance de ne pas partir.
Oui, oui.
On se sentait un petit peu libéré, on pouvait partir, la corvée était finie.
Et puis, et puis là, on dit que les gens peuvent venir dans le cercle, ne serait-ce que pour faire corps avec les autres, sans forcément prendre le pain et le vin s'ils y voient pas trop leur truc. Donc il y a différentes possibilités finalement de participer à ce temps de communion finalement.
Et vous avez vu là, c'est quand même assez courageux et audacieux, c'est-à-dire que la sortie des non-communions se fait avant la collecte. Ça c'est un signe de la foi.
Dans le, à l'oratoire c'était quand même pas le cas dans le temps, hein. C'était après la collecte quand même. Parce qu'il y avait...
Mais vous voyez, par exemple, sur la question « la prédication doit donner à penser », dans la mesure où la communion n'est pas le centre du culte, et puis elle n'est même pas célébrée chaque dimanche, c'est vraiment dans la prédication qu'est envisagé le lieu de la révélation. Et du coup, la prédication peut être comprise aussi comme mettre à la, enfin faire accéder à la conscience une partie de la vie qui jusque-là nous échappait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément problématiser une question, c'est pas forcément un enseignement. Ça peut être aussi mettre en évidence des aspects de la vie auxquels on n'était pas forcément sensible. Vous voyez, quelqu'un comme Emerson dirait qu'il s'agit de révéler les forces de vie qui sont à l'œuvre. C'est de pouvoir nous rendre présents au présent. Ce qui va en complément de ce que vous proposez, bien sûr.
Peut-être que ceux qui veulent retourner à leur foyer, parce qu'on a déjà un peu dépassé notre temps... Le temps proposé. Bon, cela dit, on peut continuer à parler entre nous ici, hein, on a largement...